Alors, avant de commencer le message, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me nommer les prénoms dans la Bible qui commencent par J? Par J. En commençant par la Genèse. J. J comme Jacques. Jacob. Après Jacob. Juste avant. Non, mais après Jacob, tout de suite après. J. Avant Joseph, entre Joseph et Jacob, le fils aîné de Jacob, Judas, Joseph, après, c'est Josué, non? Ça fait quatre, après, Jonas, avant Jérémie, dans la période de David, Jonathan, Jonas, Joël, Jérémie, dans le Nouveau Testament. C'est pas un nom à donner, ça. C'était le dernier que je voulais que vous nommiez, mais bon. Le premier. Jean-Baptiste. Ensuite, tout de suite après Jean-Baptiste, qui vient? Jésus. Qui écrit un évangile? Un des évangélistes? Jean. Là, vous me... Ah, qui a dit Judas? Judas, parce que c'est de lui que je vais vous parler ce matin. C'est de lui que je vais vous parler ce matin. On va regarder ensemble Matthieu 26, Matthieu 27 ensemble. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez déjà tourner, parce qu'on va survoler les évangiles ce matin. Je vais vous parler de Judas. J'aimerais examiner avec vous ce matin l'histoire d'un homme dans la Bible dont la vie a tourné au désastre. Vraiment au désastre, dont c'était une descente aux enfers, et c'est Judas, celui qui a trahi le Seigneur Jésus. Et j'aimerais vous démontrer un peu plus loin dans le message que ce n'est pas la pire chose qu'il a faite de trahir Jésus. Il est facile pour nous de voir Judas comme étant un méchant aux yeux sombres, mais la vérité, c'est qu'il était finalement quelqu'un qui nous ressemblait beaucoup, frères et sœurs. Si on vous avait demandé à ce moment-là de nommer celui qui parmi les disciples, à l'époque de Jésus, qui, celui parmi les disciples, trahirait un jour Jésus, vous n'auriez jamais su quel était le candidat potentiel pour commettre une telle chose. Et lorsque Jésus, regardez bien sur quoi je m'appuie, et lorsque Jésus va, qui se trouva réuni autour de la table avec ses disciples, va leur dire que l'un d'eux le trahirait, ils ont tous répondu, « Est-ce moi, Seigneur? » Personne n'a dit, « Seigneur, est-ce que ce serait Judas, par hasard? » Ils n'auraient jamais deviné. Ils ont tous dit, « Est-ce moi, Seigneur, qui te trahirait? » Il y avait deux choses qui sonnaient faux chez Judas, et il n'y avait que deux personnes qui savaient, c'était Jésus et Judas lui-même. Je vais donc vous raconter l'histoire de Judas en soulignant trois points ce matin très simples pour terminer, et je terminerai en vous disant finalement pourquoi nous pouvons avoir de l'espoir aujourd'hui. Parce que dans l'histoire de Judas, il y a quelque chose d'extrêmement, extrêmement réconfortant pour nous. Alors, voilà, je vais mettre mes feuilles là pour pas me mêler, voilà. La première chose, c'est que Judas est quelqu'un qui, comme nous, a bénéficié d'incroyables privilèges. Il a côtoyé Jésus. Rappelez-vous qu'il a vécu physiquement avec Jésus-Christ et que Jésus l'a invité à faire partie de ses 12 amis les plus intimes. Ces hommes sont ceux que Jésus a choisi pour qu'ils deviennent ses amis. Rappelez-vous que selon l'évangile de Marc, la première raison pour laquelle Jésus a appelé les 12 à le suivre, c'était d'abord pour être avec lui et ensuite les envoyer prêcher. Jésus cherchait à avoir des rapports amicaux et privilégiés avec ceux-ci, y compris avec Judas, qu'il avait lui-même choisi. Non seulement Jésus aimait cet homme, mais je suis persuadé qu'il a aussi apprécié à un certain moment, sa présence, et il a sûrement partagé plusieurs histoires avec lui et plusieurs moments particuliers avec Judas. Judas, non seulement a côtoyé Jésus-Christ, mais c'était aussi lui qui s'occupait des finances. Non seulement il a vécu avec Jésus, mais il était celui à qui on avait donné la responsabilité de gérer l'argent pour le groupe. Les gens versaient des dons, comme certains le font aujourd'hui, pour soutenir le ministère de Jésus. Et c'est Judas qui gérait cet argent. Et nous pouvons même supposer que Jésus a confié cette tâche importante à Judas pour la simple raison qu'il était probablement le mieux qualifié pour faire cette tâche. Non seulement Judas a côtoyé Jésus, non seulement il gérait les finances, mais il avait aussi reçu des dons spirituels particuliers, frères et sœurs. Des dons que vous n'avez même pas encore reçus de la part du Seigneur. Matthieu écrit au chapitre 10, verset 1, que Jésus a appelé les 12 disciples, dont Judas faisait partie du groupe, et qu'il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Rappelez-vous que Judas faisait partie des 12. Rappelez-vous aussi que quand ils sont partis aller chasser les mauvais esprits, d'imposer les mains pour guérir les malades, ils sont revenus, ils se réjouissaient que les démons leur étaient soumis. Et Jésus leur a dit, « Ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Jésus faisait partie des 12 qui avaient reçu des dons spirituels particuliers à travers le ministère que Jésus leur avait confié. Voici donc un homme qui a côtoyé Jésus, qui s'est vu confier des responsabilités dans la communauté des croyants, qui avait reçu des dons spirituels particuliers pour le ministère et que Dieu a utilisé pour libérer d'autres personnes du pouvoir de Satan. Et l'exemple de Judas, frères et sœurs, nous rappelle le danger qui nous guette de devenir trop complaisant par rapport aux privilèges que Dieu nous accorde en tant qu'enfants de Dieu. Si dans un premier temps, Judas bénéficiait de nombreux privilèges en côtoyant Jésus, j'aimerais examiner avec vous les nombreux choix qu'il a faits qui l'ont conduit à la mort. Ce sont des choix qu'on peut nous-mêmes faire. C'est pour ça que je vous dis que, d'une certaine façon, on peut ressembler à Judas. Judas a fait des choix qui l'ont conduit à la mort. Il y a des gens qui sont complètement désorientés quand on aborde le cas de Judas. Ils se disent, pauvre Judas, dit qu'il ne pouvait même pas s'empêcher de trahir Jésus. Ils ont lu qu'il y avait une prophétie dans l'Ancien Testament qui disait que quelqu'un trahirait Jésus. Et ils en sont venus à la conclusion que, à quelque part, dans toute l'histoire de l'humanité, Judas était contraint ou avait été contraint, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le choix de trahir Jésus parce qu'il avait été programmé comme un robot pour commettre ce crime et que ce qu'il a fait échappait à son contrôle. Ça, c'est de la théologie. Mais on va s'en limiter à la théologie biblique. L'histoire de Judas, frères et sœurs, n'est pas l'histoire d'un homme malheureux qui a été préprogrammé pour trahir Jésus. Parce que là, on vient toucher à la grâce de Dieu. C'est l'histoire d'un homme qui a été grandement utilisé par Dieu, mais qui s'est égaré dans une série de choix désastreux. On a beaucoup écrit sur ce qui a pu pousser Judas à trahir Jésus. Peut-être qu'il était désillusionné. Peut-être était-il un zélote fanatique. Peut-être désirait-il que Jésus se révolte contre Rome. Tout cela est possible, mais la Bible ne mentionne rien de cela. La Bible identifie un seul problème majeur qui aurait pu pousser Judas à trahir Jésus, et c'est l'argent. Il était captivé par le pouvoir que pouvait avoir l'argent. Il avait oublié que l'amour de l'argent était la racine de tous les maux. Et nous apprenons au chapitre 12 de l'Évangile de Jean que 6 jours avant la Pâque, Jésus va se rendre à Béthanie, où vivait Lazare, et que là, on va offrir un dîner en l'honneur de Jésus. Et Judas, ainsi que les 12 disciples, nous dit l'évangéliste Jean, les 11 autres disciples, ainsi que Judas, étaient présents ce jour-là. Et nous lisons qu'une femme du nom de Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur, et le répand sur les pieds de Jésus. Puis elle va les essuyer avec ses cheveux. C'était un très beau cadeau qui coûtait incroyablement cher. Si vous regardez le verset 5, vous verrez que Judas va manifester une certaine frustration suite à ce que Marie venait de faire. C'est intéressant quand on regarde le texte biblique. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? 300 pièces d'argent, frères et sœurs, ça représentait une année de salaire. Ça représentait le salaire moyen d'un ouvrier en Belgique aujourd'hui. 20 000, peut-être 20 000 euros par année. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Jean ajoute au verset 6, et c'est là qu'on connaît on va connaître un peu plus le cœur de Judas. Judas disait cela non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur. Il tenait la bourse et il prenait ce qu'on y mettait. C'est le verset 6 de l'Évangile de Jean. Jésus et les disciples recevaient des dons en argent qui étaient gérés par Judas. Cet argent était utilisé pour 2 choses. Soutenir Jésus et les disciples dans leur ministère et ceux qui étaient dans le besoin. Judas a été séduit par l'appât du gain. il était intéressé à rentabiliser au maximum le fonds qu'il gérait. Quand vous comprenez cela, vous comprenez pourquoi il était frustré de voir jusqu'à quel point Jésus avait raté une occasion de remplir un peu plus la caisse. Si nous prenons l'exemple du jeune homme riche qui s'approche de Jésus dans Matthieu chapitre 19, verset 21, vous vous souvenez que Jésus va lui dire, « Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres, et tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Judas devait sûrement saliver à ce moment-là. Il devait se dire, « Oh mon Dieu, s'il vend tout ce qu'il a pour le donner aux pauvres, il versera sûrement la somme dans notre bourse, puisque c'est ce que nous faisons, nous venons en aide aux pauvres. » Il est écrit que lorsque le jeune homme entendit ces paroles, il s'en alla tout triste. Quelle occasion manquée, quel don nous aurions pu recevoir, c'est probablement dit Judas lui-même. Pensez au salaire que vous gagnez dans un an. Une année de salaire, c'est un gros don. Le parfum de Marie valait un an de salaire, comme je l'ai dit tantôt. Et imaginez jusqu'à quel point Judas devait être déçu, puisqu'il pigeait dans la caisse, nous dit Jean. Cet argent avait un potentiel financier énorme pour le groupe, et cet argent aurait pu faire grossir la caisse, et Jésus n'avait rien fait pour empêcher Marie de verser ce parfum. Regardez ce qui est arrivé à Judas. Il aurait voulu s'investir dans le ministère avec Jésus, et il a fini par investir son temps dans l'argent. À quelque part, au plus profond de son cœur, il avait sûrement dit, alors qu'il était encore jeune, « Moi, je veux consacrer ma vie à servir le Seigneur Jésus-Christ. » Pour en arriver ensuite à se dire, « Je consacrerai ma vie à servir le Seigneur Jésus, mais je chercherai aussi à gagner le plus d'argent possible. » Quand il a découvert que suivre Jésus ne rapportait pas suffisamment d'argent, il a cherché une autre façon de gagner de l'argent sans Jésus. Il est donc tout à fait compréhensible que Matthieu nous révèle cet aspect de la vie de Jésus tout de suite après cet incident où Marie a versé le parfum sur les pieds de Jésus. C'est tout de suite après cet incident que Judas est allé trouver les principaux sacrificateurs et les anciens du temple pour leur livrer Jésus. Aussitôt que l'argent est devenu plus important pour lui, Jésus est devenu moins important pour lui. Car comme Jésus l'a si bien dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Il n'a pas dit que nous ne pouvions pas gagner de l'argent. Il a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir que ces deux choses exigent que vous leur portez beaucoup d'attention. Les deux. Vous ne pouvez pas vous consacrer autant sur l'argent que sur Dieu. Vous allez toujours faire un choix. C'est soit Dieu ou soit l'argent. Et c'est pour ça que la Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Vous devez décider lequel vous allez servir. Si Jésus n'allait pas gagner de l'argent pour Judas, alors Judas gagnerait de l'argent pour Jésus. Et vous savez que la décision de gagner de l'argent pour Jésus, frères et sœurs, a été souvent la principale cause de scandale dans les ministères chrétiens au cours des siècles. Et il en est encore de même aujourd'hui pour certains serviteurs de Dieu, comme ce fut le cas pour Judas. Je veux gagner de l'argent pour Jésus. Frères et sœurs, quand une porte est ouverte, Satan ne perd pas de temps pour y entrer. Il ne peut pas entrer lorsque les portes sont fermées. Mais lorsque la porte est ouverte, il ne perd pas de temps pour entrer. Et lorsque quelqu'un est prêt à vendre son âme pour l'amour de l'argent, Satan entre et c'est le premier grand pas que Judas a fait pour commencer sa descente aux enfers. Il a ouvert une porte au diable parce qu'il a été séduit par l'appât du gain. Deuxièmement, frères et sœurs, ce qui est encore pire, il a résisté à l'amour de Jésus. Après avoir pris la décision de trahir Jésus et être allé trouver les principaux sacrificateurs qui acceptèrent de lui verser 30 pièces d'argent pour leur livrer Jésus, Judas est retourné auprès de Jésus qui s'apprêtait à prendre un dernier repas avec ses disciples. Nous lisons chapitre 13 et 14 de l'Évangile de Jean que tout au long du souper appelé la dernière scène, Jésus va lui tendre la main et Judas va repousser chacune des tentatives de Jésus pour le ramener vers lui. Judas avait pris l'argent dans la caisse. Il ne devait sûrement pas se sentir à l'aise en présence de Jésus et de ses disciples. Pouvez-vous imaginer ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là? Il s'est peut-être dit, « Bon, ça va aller. Je dois passer la soirée en présence de Jésus. Il suffit de faire semblant que tout va bien et personne ne s'apercevra de rien. » Il n'est pas facile d'entrer dans la présence de Dieu, frères et sœurs, quand on a quelque chose à cacher, n'est-ce pas? Imaginez Judas. Qu'est-ce qu'il a pu ressentir? Jésus vient s'agenouiller à ses pieds. Ça, c'est le premier geste de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, Jésus va s'agenouiller aux pieds de Judas. il va lui laver les pieds. Et je suis convaincu qu'avec des yeux remplis d'amour, il devait le regarder. En se disant, qu'est-ce que tu attends pour demander pardon, Judas? Pour que je t'accorde ma grâce. Et il devait lui laver les pieds. Et il devait le regarder. Oh. Quel regard! Pas un regard de colère, un regard d'amour pointé dans le visage de Judas. Et Jésus et Judas s'est détourné de ce regard. Que pensait Judas? Qu'a-t-il ressenti? S'est-il dit en lui-même, oh mon Dieu, il ne faut pas que Jésus le sache, alors qu'il le savait très bien, Jésus. Il devait s'en douter, Judas, que Jésus le savait. Ensuite, ils se sont rassemblés autour de la table et Jésus a de nouveau tendu la main à Judas en disant, « L'un de vous me livrera. » Jean écrit que les disciples se sont regardés l'un et l'autre profondément attristés. Chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Et Jean écrit au verset 22 qu'il ne savait pas ce que Jésus voulait dire et que les disciples étaient profondément attristés, que Jésus aurait pu penser qu'un de leurs l'aurait trahi. Chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Il n'y a une seule personne dans cette pièce qui savait ce que Jésus voulait dire, et c'était Judas. Jésus voulait faire savoir à Judas qu'il savait. Il ne cherchait pas à l'accuser, mais plutôt à lui tendre encore une fois la main. Et dans sa grâce, il l'invite à revenir dans le cercle de ses disciples. Matthieu écrit au verset 25 que Judas prit la parole et dit, « Est-ce moi, maître? » Il aurait dû le savoir, puisque Jésus vient dire qu'il y en a un du groupe qui va le trahir. Autrement dit, c'est sûrement pas moi, maître. Pauvre Judas. Il fait un pas supplémentaire pour se retrouver encore un peu plus loin dans le baril, dans le fond du baril. Il ment maintenant à Jésus. Il sait très bien que c'est lui, mais il est allé tellement loin dans son péché qu'il commence à mentir pour couvrir son péché et il pense pouvoir entrer dans la présence de Dieu en mentant à Jésus. Jésus dit alors que celui qui va mettre la main dans le plat avec lui, c'est celui qui le trahira. Voici un moment saisissant où Judas décide de continuer dans sa mauvaise voie. Il va prendre le pain dans le plat. Et c'est à ce moment-là que Jean écrit que Satan entre dans Judas. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe, frères et sœurs, ici? Judas avait fait le choix de vivre pour l'appât du gain. Il voulait gagner de l'argent en utilisant le nom de Jésus et Satan entre en lui. Puis il expérimente l'amour de Christ qui tente de le ramener à lui, mais il le repousse. Il rejette Christ et il prend sa décision finale. Il prend le morceau de pain et en faisant ce choix, Satan entre en lui et que Satan entre par la porte que Judas lui a ouverte. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous donne cet avertissement dans Éphésiens chapitre 4, les versets 27 à 28. Si vous vous mettez en colère, prenez garde de ne pas tomber dans le péché. Que votre colère ne dure pas jusqu'au soir. Ne donnez pas l'occasion au diable de vous dominer. N'ouvrez pas la porte au diable pour vous dominer. Vous savez ce qui arrive dans la pratique? Quand on se couche le soir, on s'est disputé avec quelqu'un, que ce soit avec notre conjoint, peu importe, qu'on se couche le soir sur notre colère. Durant la nuit, le diable va travailler dans nos vies. Et à un moment donné, si on ne règle pas le problème, on va développer de l'amertume. On va développer de la rancune envers notre conjoint. Et après ça, on va voir se venger, parce qu'on n'a pas réglé notre problème de la colère avant de se coucher. Ça ne veut pas dire que c'est le lendemain matin qu'on va voir se venger. Ça va, le diable va jeter, et il va faire en sorte, en fait, que la semence puisse progresser. Il va la nourrir, cette semence. Et malheureusement, ça peut détruire l'amour entre deux conjoints. Je sais maintenant que chaque fois que nous arrivons à cette question, certains commencent à se demander si cela concerne le salut. Ne sommes-nous pas sauvés, toujours sauvés? J'aimerais simplement vous dire ceci. Nous ne trouvons nulle part dans la Bible une seule promesse que ceux qui vivent selon leur nature pécheresse hériteront de la vie éternelle. La doctrine de la sécurité éternelle est pour ceux qui ont déclaré la guerre à leur nature pécheresse. Le Christ garde et apporte la victoire à tous ceux qui ont décidé de vivre comme Dieu le demande. Nous entendons souvent dans nos milieux chrétiens que nos choix moraux ne nous sauvent pas, et c'est vrai. Le malheur, c'est que nous en concluons que nos choix moraux n'ont pas d'importance, et ce n'est pas vrai. Nos choix moraux comptent. Paul est très clair sur ce point, je vais vous le lire. Romains chapitre 8, versets 5 à 8. Ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ce que cette nature demande, mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent de ce que l'Esprit Saint demande. Se préoccuper de ce que sa propre nature demande mène à la mort. Mais se préoccuper de ce que l'Esprit Saint demande mène à la vie et à la paix. Ceux que dominent les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Vivre ce genre de double vie en pensant que tout va bien, frères et sœurs, c'est courir au désastre. Judas a été séduit par le pouvoir de l'argent, il a résisté à la main tendue par Dieu. N'est-il pas triste de voir un homme qui a bénéficié d'autant de privilèges faire autant de choix qui vont le conduire à la mort? Troisième point que j'aimerais examiner avec vous, son désespoir. J'aimerais parler de ce à quoi j'ai fait allusion au tout début quand je vous ai dit qu'on va parler de deux choses concernant Judas et d'un troisième point, son deuxième point. C'est-à-dire ce qui a provoqué chez Judas, c'est une telle descente aux enfers. Ce n'est pas le fait, frères et sœurs, qu'il ait trahi Jésus. Bien, vous pouvez peut-être vous dire, est-ce que quelqu'un peut commettre quelque chose de pire que de trahir Jésus? Bien, permettez-moi de vous dire qu'il y a encore quelque chose de pire que de trahir Jésus. Et il y a quelque chose de pire pour Judas d'avoir trahi Jésus. C'est qu'après avoir commis cet horrible péché, il a abandonné tout espoir d'être pardonné. Parce que Jésus y aurait pardonné. Tournez au chapitre 27 de Matthieu à partir du verset 1. Regardez, ça vaut la peine. Matthieu 27, verset 1 et les suivants. On va suivre le déroulement de l'histoire. Dès que le matin fut venu, c'est-à-dire le matin de la crucifixion de Jésus, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. On ne peut pas dire jusqu'ici que là, Judas, il n'essaye pas de se racheter. Hein? Au verset 4, il fait de lui-même une surprenante et remarquable confession. Il va trouver les chefs des prêtres et les anciens et il leur dit, « J'ai péché! » Il reconnaît son péché. C'est clair ce qu'il dit ici. Il ne cherche pas d'excuses, il ne cherche pas d'échappatoire. Il dit ici, « J'ai péché en livrant un innocent à la mort. » Il reconnaît que Jésus est innocent. Il ne manque rien à sa confession. Vous ne pouvez pas en nous demander davantage. Il avoue lui-même qu'il est coupable. De plus, remarquez qu'il dit que Jésus est innocent. Il veut sauver Jésus ici. Son idée à ce moment-là, c'est que s'il retourne l'argent, peut-être que la décision prise contre Jésus pourrait être inversée. Peut-être même que s'il témoignait, avouait lui-même que c'est lui qui a trahi Jésus, que celui-ci, en disant que celui-ci est réellement innocent et que ce que les autres témoins ont dit, c'était des faux témoignages, peut-être qu'on reporterait l'exécution de Jésus ce jour-là. J'en fais pas un d'homme, hein, je vous m'en dis peut-être. Hein. C'est vrai que j'ai péché, mais il est peut-être possible de faire quelque chose pour établir la vérité, c'est peut-être dit. Écoutez, il dit quand même qu'il a péché. Hein. On ne peut pas l'enlever. Même si on va voir que le mot repentance ici dans le grec, c'est qu'il était pris de remords. Hein. C'est différent de la vraie repentance. Hein. Mais malheureusement, lorsqu'il est allé voir les principaux sacrificateurs, ceux-ci lui ont répondu au verset 4, « Que nous importe, c'est ton affaire. » Traduit dans un français courant d'aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça te regarde maintenant, Judas. Ça, c'est ta responsabilité, il est trop tard. Tu as conclu un accord, et un accord, ça reste un accord. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ce qui a été décidé sera fait. Tu as fait un choix, c'est ton problème, Judas. Tu ne peux rien y faire maintenant, il est trop tard. Et là, vous pouvez entendre vraiment les paroles du diable, lui-même, à travers ces mots prononcés par les principaux sacrificateurs. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le désespoir vient s'installer dans le cœur de Judas. Il est désespéré. Il sait qu'il vient de commettre un crime horrible. Il ne peut plus rien faire pour Jésus. La sentence ne peut plus être annulée. Et il sait qu'il ne pourra plus jamais se regarder dans une glace. Il est écrit au verset 5 qu'il jeta l'argent dans le temple et qu'il quitta les lieux pour aller se pendre. Frères et sœurs, la pire tragédie de sa vie, ce n'est pas qu'il ait trahi Jésus. ce n'est pas qu'il se soit enlevé la vie, c'est qu'il avait perdu tout espoir. Il n'y a pas de plus grande tragédie pour un homme ou pour une femme de perdre que de perdre tout espoir dans la vie. C'est la plongée ultime vers la mort pour un homme ou pour une femme qui a perdu tout espoir. Ne vous rendez jamais jusqu'à ce point de non-retour. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelqu'un d'autre. Parce que Judas, cette nuit-là, frères et sœurs, ce n'était pas le seul qui était désespéré. Il y en avait un autre. La nuit précédente, Pierre se tenait juste à côté de la maison du grand prêtre où Jésus avait été amené. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 26 qu'on se moquait de Jésus, qu'on lui crachait au visage, qu'on le frappait à coups de poing et qu'on lui donnait des gifles. Pierre était mort de peur à l'idée qu'on découvre qu'il était un des disciples de Jésus et qu'on lui fasse subir le même traitement que Jésus. Voilà pourquoi, lorsqu'on lui demanda à trois reprises s'il ne faisait pas partie du groupe qui accompagnait Jésus, il a répondu non à chaque fois, allant même jusqu'à dire, regardez bien le verset 72, ceux qui ont leur Bible, 72-74. Allant même jusqu'à dire non seulement qu'il ne le connaissait pas, mais il a appelé le jugement de Dieu sur lui. Lorsqu'il va dire que Dieu me punisse si je mens, je jure que je ne le connais pas. Frères et sœurs, honnêtement, lequel des deux, entre Judas et lui, aurait dû être le plus désespéré? Parce que Pierre avait entendu aussi une parole de Jésus. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père et dans les cieux. Et Judas ne s'est pas amusé à le renier une fois. Il l'a renié trois fois. Pierre. Trois fois. Luc écrit qu'au moment même où Pierre renia Jésus pour la troisième fois, Jésus se retourna et regarda fixement Pierre. Alors Pierre se souvient de ce que Jésus lui avait dit. Et le texte biblique nous dit, il sortit et pleura amèrement. Ainsi donc, le jour où Jésus est mort, le lendemain matin, il y avait deux hommes entourés de ténèbres, Judas qui l'avait trahi et Pierre qui l'avait renié. Deux hommes qui se sont retrouvés dans le fond du baril ce jour-là, et pourtant il y avait une grande différence entre eux. Judas était rempli de remords, tandis que Pierre s'est repenti. Regretter, c'est regarder à l'intérieur de soi et se dire, j'ai gâché ma vie. Se repentir, c'est regarder à Jésus en disant, je remets ma vie entre ses mains. Judas était désolé d'avoir fait ce qu'il avait fait, mais il ne s'était pas vraiment repenti. La repentance, c'est plus qu'être désolé. C'est plus que de dire, je suis coupable, c'est moi qui l'ai fait. La repentance, c'est plus que désirer, comme dans le cas de Judas, de pouvoir revenir en arrière et de refaire ce que nous avons défait. La repentance consiste à entrer dans une profonde tristesse, à se tourner vers Jésus-Christ, et c'est à ce moment-là qu'on retrouve l'espoir de continuer. La tragédie dans la vie de Judas, c'est-à-dire la plus grande tragédie de sa vie, c'est qu'il n'y a pas vu que son seul espoir, c'était de venir à Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, Paul explique la différence qui existe entre la vraie repentance et la fausse repentance. Il dit que la tristesse selon Dieu produit une repentance qui sauve. Regardez bien la suite, dont on ne se repent jamais. Quand quelqu'un fréquente l'Église depuis des années, qui retourne vivre dans le monde comme les gens du monde, ce n'est pas cette repentance-là qui est passée dans sa vie. Paul est clair, on ne s'en repent jamais de cette repentance-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est né de nouveau. On voit maintenant le péché comme Dieu le voit. On voit le monde comme Dieu le voit. C'est ça, ça fait partie du miracle que la nouvelle naissance nous apporte. On déteste le péché autant que Dieu le déteste. Parce qu'on sait tout le mal que le péché fait dans la vie des hommes et des femmes. Ça, c'est la vraie repentance. On ne s'en repent jamais. C'est pour moi qu'il dit, c'est Paul. Tandis que la tristesse selon le monde, c'est-à-dire le remords, produit la mort. Lorsque vous avez fait quelque chose que vous savez être mal, ne vous laissez pas envahir par le désespoir. Ne vous laissez pas vaincre par un esprit de condamnation parce que c'est le meilleur moyen d'entreprendre une descente aux enfers et renoncer à l'espoir qui se trouve en Jésus-Christ. Il n'y a rien que Jésus ne peut pas pardonnez, rien. Dites amen à ça. Rien, soyez-en convaincus. Vous pouvez venir à l'église le dimanche, ça fait peut-être un an, deux ans que vous jouez à l'hypocrite. que vous baignez dans le monde, que vous vivez dans le péché. Et là, vous en pouvez plus, vous êtes rendu au bout. Vous cherchez une solution. Et la porte du désespoir est ouverte pour vous. Mais en même temps, il y a la porte du salut, la porte du pardon, la porte de la grâce qui est là aussi. Et c'est le choix que vous devez faire. Et il suffit de vous rappeler des promesses que Jésus a faites. Je ne rejette personne qui vient à moi. Personne. Et il n'aurait pas rejeté non plus Judas. Et si ça n'avait pas été Judas, ça aurait été un autre. Judas, il porte simplement le titre « le fils de la perdition », mais il n'a pas, comme je l'ai dit tantôt, il n'a pas été préprogrammé pour venir au monde et trahir Jésus. C'est des choix qu'il a fait. Il a choisi de vivre comme un voleur. Il a choisi de vivre pour lui-même à un moment donné. Mais c'est important pour nous, tu comprends ça? Je rencontre des chrétiens qui sont désespérément, mais perdus dans leurs pensées, qui remettent tout en question, alors qu'il suffit de se présenter au pied de la croix et dire, « Seigneur, je ne sais même pas si je t'appartiens ou pas. » Seigneur, tu peux me parler. Eh bien, et Dieu va nous parler, mais à travers la parole. Et Dieu va nous montrer. La repentance signifie prendre possession de ce que j'ai fait pour ensuite me tourner vers Jésus-Christ, en qui je trouve un espoir pour l'avenir. C'est là ce qui a fait toute la différence entre Pierre et Judas. Pierre s'est repenti, Judas s'est laissé envahir par le désespoir et il s'est pendu. Ce qui est incroyable, c'est que deux jours plus tard, Jésus est ressuscité, que Pierre s'était repenti. S'étant repenti, a pu le voir entendre sa parole et être intégré dans un tout nouveau projet de vie pour lui. Il y avait un ministère qui l'attendait, et ce, bien au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer, alors que Judas aurait pu vivre la même chose que Pierre, mais il n'était plus là pour le voir. Et le premier qui va prêcher, celui qui va prêcher le premier sermon évangélique, c'est Pierre. Quelle grâce! Quelle grâce! Jésus aurait pu lui dire, écoute, tu m'as régné trois fois. Bon, bien, écoute, contente-toi des miettes que je vais te donner dans le ministère. Tu n'es pas quelqu'un de sûr. Tu n'es pas quelqu'un sur qui on peut se confier. Tu risques peut-être de me trahir encore une fois. De me régner, non. La grâce de Dieu, elle efface tout. Elle ne ramène rien du passé. La grâce de Dieu n'est que pardon, frères et sœurs. La condamnation ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour nous condamner, mais pour parler à nos consciences et nous ramener sur le droit chemin, pour nous enseigner ce qui est la vérité. Frères et sœurs, si nous voulons éviter une descente aux enfers, ne perdons jamais espoir. C'est peut-être la bataille à laquelle certains parmi vous sont confrontés ce matin. Au point où seul le Seigneur et vous-même savez peut-être quelles sont les ténèbres dans lesquelles vous êtes maintenant prisonniers. Vous avez l'impression que votre vie peut-être est un échec. Vous vous sentez horriblement coupable et vous ne trouvez pas le moyen de vous sortir de cette situation dans laquelle vous vous trouvez à cause de certains choix que vous avez faits. Voici ma question. Allez-vous réagir comme Pierre ou comme Judas? Il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit que vous vous repliez sur vous-même en vous disant « J'ai gâché ma vie, je suis enfermé dans les ténèbres du désespoir » ou bien alors vous portez votre regard sur Jésus-Christ, votre seul espoir, et vous dites « Malgré mes nombreux péchés, malgré mes manquements, je me repens et je me remets ma vie entre tes mains, Seigneur Jésus. Prends ma vie, Seigneur Jésus, et comme le potier fait avec l'argile, façonne-moi maintenant quelque chose qui te sera utile dans l'avenir et qui te glorifiera. » Peu importe l'épaisseur des ténèbres dans lesquelles vous êtes confrontés ce matin, si c'est votre cas, il y a toujours de l'espoir en Jésus-Christ. Permettez-moi de préciser deux choses ici. Premièrement, vous n'êtes jamais trop mauvais. Peut-être que certains pensent que je laisse entendre ici que Judas aurait pu être pardonné, bien sûr, si Christ est mort pour tous les pécheurs. Deuxièmement, ne faites jamais l'erreur de classer certains péchés dans une catégorie que vous croyez être impardonnable. Depuis 35 ans, je suis dans le ministère, le nombre de fois que j'ai des chrétiens qui sont venus confesser un péché en pensant que c'était le péché impardonnable et qui était complètement démoli. Le péché impardonnable, il faut regarder le passage, il est clair, ça concerne une seule chose, c'est que Dieu accomplit des miracles et on associe ces miracles au diable. Voilà, c'est ce que Jésus dit. Il fait des choses, on lui dit, c'est par Belzébul que tu fais ça. Ah, ben, il dit, tout péché sera pardonné, sauf le péché contre le Saint-Esprit. En bon français, le péché contre le Saint-Esprit, c'est rejeter volontairement la grâce de Dieu qui se manifeste devant nous. Si seulement Judas, au lieu d'aller se pendre dans ce champ, avait pris le temps de venir près de la croix avec un cœur repentant, il aurait vu Jésus cloué sur celle-ci. Je ne sais pas comment il aurait pu rester là, mais les yeux fixés sur cette croix et se relever, il aurait pu entendre Jésus dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il aurait entendu ensuite son pardon accordé à un des malfaiteurs qui était cloué sur une croix juste à côté de lui. Il aurait vu qu'il était prêt à pardonner à un de ses disciples qui l'avait renié et qu'il avait appelé un jugement sur lui-même. Et ça, même si ce disciple l'avait entendu dire un jour, comme je l'ai dit tantôt, « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Jésus aurait été prêt à pardonner à Judas de l'avoir trahi, et il est prêt à vous pardonner pour tout ce que vous avez fait si vous venez à lui. Ne faites jamais comme Judas, qui a sombré dans le désespoir en se disant, « Même si je connais Jésus, il n'y a aucun espoir qu'il me pardonne. » Ça, ce n'est pas le Jésus que je connais. Et ça, ce n'est pas le Dieu que je connais. Ça, ce n'est pas la grâce que je connais. Rappelez-vous, si c'est votre cas ce matin, vous ne serez jamais trop mauvais pour que Jésus vous rejette. Si vous l'avez déjà renié, lui, par contre, ne reniera jamais sa parole. Et je vais redire ce que j'ai dit tantôt. Jean chapitre 6, verset 37. Je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Christ est prêt à pardonner à tous ceux qui viennent à lui dans un esprit de repentance et qui mettent leur espoir en lui. Si vous voulez éviter une descente aux enfers, ne perdez jamais espoir. La croix est assez grande pour couvrir votre péché. Le sang de Jésus est assez riche pour vous purifier de votre culpabilité. L'amour de Jésus est assez fort pour vous atteindre, peu importe jusqu'à quel point vous vous êtes éloigné de lui. Croyez en lui, venez à lui, mettez votre espoir en lui. Il n'y a aucune raison pour quiconque, ce matin, de quitter cette église animée d'un esprit de désespoir. Un dernier point, il n'est jamais, jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Amen. Il n'est jamais trop tard. Chers amis, l'ennemi de nos âmes, cherche peut-être ce matin à faire pénétrer en vous les mêmes mensonges qu'il a fait pénétrer dans l'esprit de Judas. Le premier mensonge, c'est que vous avez fait trop de mauvaises choses pour être pardonné. Ça, c'est le premier mensonge que le diable a pu entrer dans l'esprit de Judas. Ton péché est trop grand. Le deuxième mensonge, c'est que vous êtes rendu tellement loin qu'il est trop tard pour vous, tourner vers Jésus. Judas a cru ce mensonge du diable qu'il était trop tard et qu'il était allé trop loin pour que Jésus lui pardonne. Maintenant qu'il l'avait envoyé à la potence, il a pensé qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui et il a mis fin à ses jours. Permettez-moi maintenant de profiter de l'occasion pour m'adresser à ceux et celles qui écouteront ce message sur Internet. Vous avez peut-être atteint un certain âge ou vous êtes peut-être atteint d'une maladie dont le diagnostic ne fait plus de doute. Vous êtes en train de vivre le dernier chapitre de votre vie et vous avez l'impression que les dés sont jetés. Vous vous dites en vous-même que c'est trop tard. Vous sentez venir la fin. Vous vous dites, il arrivera ce qui arrivera. Accompagnez-moi jusqu'à la croix et essayez de voir la scène. Jésus est en train de mourir et sur une autre croix qui se trouve juste à côté de lui, se trouve un malfaiteur qui lui aussi est sur le point de mourir. Il est moins une pour lui et tout à coup, il voit son besoin. Il croit alors que le pardon de ses péchés se trouve uniquement en Jésus. Il lui demande de le sauver et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Il croit déjà au retour de Jésus, ce malfaiteur. Jésus lui répondit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour vous sauver. Il est prêt à vous accueillir à tout instant de votre vie. Il vous appelle à croire en lui et il vous invite maintenant à placer votre confiance en lui, à placer votre confiance dans sa mort, qui prend sur lui les péchés, qui efface les péchés. Il vous offre la vie éternelle. Croyez en lui, faites-lui confiance, tournez-vous vers lui. Demandez-lui de vous sauver. Il y a toujours de l'espoir en Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tard dans cette vie. Ne vous dites pas, j'ai 60, 70 ou 80 ans. sans avoir vécu sans Christ. Il est trop tard pour moi maintenant. Venez à lui maintenant. Mettez votre espoir en lui. Et en terminant, frères et sœurs, j'aimerais vous raconter cette petite histoire, cette belle histoire qui est un fait vécu, qui est survenu lors du naufrage du Titanic. Cette histoire nous rappelle que nous vivons la plupart du temps dans ce monde sans nous soucier de Dieu. Et pourtant, le regard de Dieu ne nous quitte jamais. Cette histoire nous rappelle aussi qu'il y a tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir de trouver Dieu. Le jour où le Titanic a coulé, il y avait à bord un pasteur écossais de Glasgow qui s'appelait John Harper. Il se trouvait sur le Titanic ce jour-là parce qu'il devait apporter une série de sermons dans différentes églises de Chicago. Lorsque le Titanic a coulé, John Harper a passé ses derniers moments dans les eaux glacées de l'Atlantique à exhorter les gens à faire confiance à Jésus-Christ. À un moment donné, il a aperçu un homme accroché à une planche. Il s'est approché de lui en se tenant après cette même planche pendant quelques minutes. Il lui a dit, « Es-tu sauvé? » Et l'homme a répondu, « Non. » John Harper lui dit alors, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Il quitta ensuite l'homme et il se mit à nager vers d'autres personnes pour leur parler de la même manière qu'il venait de le faire avec cet homme. Après un certain temps, il retourna voir cet homme, le premier qui était accroché après cette planche, en lui disant, « Es-tu sauvé? » L'homme lui répondit, « Non. » Alors pourquoi ne fais-tu pas confiance au Christ? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Quelques instants plus tard, épuisé, Harper est disparu dans ses eaux glacées. Vous vous demandez peut-être comment nous connaissons cette histoire. Parce que quelques mois plus tard, un homme s'est levé dans une église au Canada pour raconter cette histoire. Il a dit, « Je suis le dernier converti de John Harper. » Mes amis, ne perdez jamais espoir. Il n'est jamais trop tard pour que vous trouviez une espérance éternelle en Jésus, peu importe ce que vous vivez. Amen.